Temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une rencontre entre deux écrivains et un détonateur à écriture, un détonateur à fiction. La citation, cette phrase qu'un écrivain qui est souvent aussi et peut-être d'abord un lecteur trouve dans le texte d'un autre et dont il fait son miel, pollinisant en retour peut-être l'esprit d'un autre lecteur et ainsi va la création. Citation, en effet, il y a dans le nouveau livre de Tanguy Vielle, Iceberg, aux éditions de Minuit, réflexion sur l'acte de faire littérature grâce aux autres. Bonjour Tanguy Vielle.
Bonjour.
Citation, il y a dans Clic-Clac de Nathalie Azoulay. Bonjour Nathalie Azoulay.
Bonjour.
Citation filmique cette fois, car il est question de faire un film impossible, tant la protagoniste de votre livre découvre que toute création est faite d'autres créations, d'emprunts, volontaires ou non, c'est ce que nous verrons dans cette émission. Tanguy Vielle, vous avez publié de nouveaux romans depuis votre premier livre, le Black Note, en 1998. Vous avez reçu le prix Fénéon et le prix de la vocation pour l'absolue perfection du crime, publié en 2001. En 2013, vous vous intéressiez à la disparition de Jim Sullivan. Et en 2017, vous vous lanciez sur l'article 353 du Code pénal. Outre vos romans, vous avez aussi écrit plusieurs fictions pour France Culture, de Maladie en 2000 jusqu'à Avance rapide en 2009. C'était pour la jeunesse.
C'était pour la jeunesse.
Et vous publiez cette fois un livre d'une forme nouvelle, Iceberg, qui se présente comme une suite de courts chapitres écrits sur plusieurs années dans lesquels un écrivain, vous, questionnez ce qu'il doit aux autres. On vous voit ainsi passer d'un chapitre sur ce que vous appelez le démon de la citation à une réflexion sur la bibliothèque du célèbre historien d'art Abby Warburg, d'une réflexion sur les levées de Paul Valéry à l'aube et sa conception des livres marins, évidemment liés au cimetière de Sète, la ville où il est né. Et vous passez de ce cimetière marin à la mort de Virginia Woolf. Tous ces auteurs sont évidemment cités. Ils viennent vous stimuler, vous inquiéter, vous questionner sur votre métier, votre vocation, sur vos phrases. Ce livre, c'est en effet une promenade mouvementée dans votre psyché d'écrivain, entre enthousiasme et doutes abyssaux. On vous voit en lisant, en écrivant, là c'est moi qui cite Gracq en l'occurrence, on vous suit jusque dans la tour de Montaigne, on vous observe recopier la parole des autres en nous expliquant, je vous cite page 33, qu'en recopiant, on comprend que le code secret de son existence non seulement se trouve disséminé dans 1000 lectures inattendues, mais que sa composition même ne s'en dévoile qu'en sautillant et circulant sans but, pensées intercalaires qui trouvent leur épaisseur à travers les pages lues ou simplement feuilletées, comme une nuée de chauves-souris se dirige aux ultrasons entre les arbres, sans jamais s'y cogner, profitant de l'écho trouvé en eux pour se mouvoir infiniment dans la nuit. Iceberg, le titre, donne l'idée de blocs dérivant de manière singulière, solitaire, sur une mer glacée, heurtant parfois de leurs arêtes coupantes des bateaux qui auraient la malchance de croiser leur route. C'est comme ça que vous voyez la littérature, des icebergs qui dérivent, qui coupent, qui fracassent parfois.
Les icebergs, ce serait plutôt une forme déjà cristallisée de la pensée, et en ce sens-là, plutôt une réussite par rapport au risque liquide. En fait, je crois que cet essai-là, pour moi, est une sorte de tentative de lutter contre ce qu'on appellerait en psychanalyse le sentiment océanique, ouais. Au fond, c'est-à-dire une sorte de plaisir un peu pervers à se contenter de sa propre pensée et qui est au fond une autre définition peut-être de la mélancolie, c'est-à-dire, je crois que c'était, je suis pas sûr de moi, mais je crois que c'est chez Benjamin qu'on peut lire le mélancolique, c'est celui qui est pris de passion pour sa propre pensée. Et il y a dedans une sorte de risque permanent, un risque terrible pour la création, mais simplement pour pouvoir tenir debout. Écrire ces essais, c'était une manière à la fois d'essayer de frôler cet espace, parce qu'il est tentant, et en même temps de le tenir à distance par l'écriture.
Pourquoi pervers, vous avez utilisé cet adjectif?
Peut-être que le mot pervers, c'est juste une manière pour moi de dire que j'y vois plus de danger que de création possible. Quoi. Après, il me semble que, comme on parle un peu du pervers polymorphe, c'est-à-dire cette manière qu'a le désir de ne pas toujours être bien situé, et d'hésiter sur sa matière et de risquer sans cesse de se fondre sur son propre narcissisme, en fait. Il y a dans le fait de se regarder écrire un risque permanent qui est celui de tenir un journal infini où on passerait son temps à écrire qu'on écrit, ou à écrire qu'on
écrit. Vous en citez un, d'ailleurs. Il y en a un exemple très célèbre dans la littérature. Non,
peut-être le plus célèbre, mondiale. Effectivement, c'est Amiel, qui aura quand même écrit 16 000 pages.
Non, mais il y a un Américain aussi.
Alors, un Américain voilà. Encore plus fou, oui, qui s'appelle Robert Shields, et qui, lui, a décidé de consigner toute son existence, minute par minute, dans un journal infini, qui fait quand même 37 millions de mots, je crois. Enfin, c'est un truc complètement...
Et là, c'est très pervers, voilà.
Ben là, c'est-à-dire que bon, je pense que c'est sans doute ce qui tenait ce genre de personnalité, c'est ça ou rien pour eux. Donc, en ce sens-là, peut-être que c'est plus un salut qu'un abîme. Mais enfin, c'est pour moi, vu de l'extérieur, disons d'un côté moins pathologique, je me dis toujours que si je peux frôler cet abîme, parce qu'il y a quelque chose qui est complètement excitant dedans, et peut-être aussi parce que les formes mêmes de la vie pulsionnelle, du désir, ont à voir avec cet endroit-là, mais qu'en même temps, il faut sans cesse le tenir, faut tenir la bride.
Clic-clac, c'est le titre de votre nouveau roman, Nathalie Azoulay, qui paraît chez POL. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont en 2015, Titus n'aimait pas Bérénice, lauréat du prix Médicis. Clic-clac, comme ce lit qui peut être prestement refermé, ou ouvert d'ailleurs, c'est comme ça que la grande cinéaste Claire Gantz voit la grande scène à faire du film qu'elle est en train de tourner, une sega, comme on dit, scène d'extinction du grand amour entre Pierre et Marie. C'est une scène qu'elle visualise parfaitement, une femme qui dit à l'homme qu'elle a aimé « je ne veux plus te voir », mais qu'elle n'arrive pas à tourner tant cette scène ouvre sans arrêt vers d'autres films, Nos plus belles années de Sidney Pollack avec Barbara Streisand et Robert Redford, un mélo que sa mère adorait, sa mère qui vient de mourir et dont Claire voudrait s'approcher des larmes. Le tournage bientôt bute sur cette scène sur laquelle il faudrait passer, mais elle y revient, Claire, elle ne veut pas passer. Elle découvre d'ailleurs tout ce que Nos plus belles années doit à un autre film, Splendor in the Grass, d'Elia Kazan, que nous traduisons en France par La fièvre dans le sang, film de 61, et qu'un autre film peut-être se tient entre les deux, brillant par sa Sega, sa scène d'extinction du grand amour, Les parapluies de Cherbourg, de Jacques Demy, qui aurait été influencé par La fièvre dans le sang, et qui aurait peut-être influencé, qui sait, Nos plus belles années de Sidney Pollack. D'ailleurs, je dis qui sait, c'est un postulat de Nathalie Azoulay, ou c'est... le fruit de longues recherches.
Ben, je crois que c'est les deux, parce qu'en fait, je ne sais plus très bien. Mais je crois que la filiation entre ces trois scènes n'est pas totalement documentée. Et je pense qu'il y a une part de moi-même qui a été très active là-dessus.
D'accord, oui, c'est ça. On n'est pas dans le fait, dans la
non,
référence avouée.
Non, ce n'est pas un fait, mais je crois qu'il y a des bribes. Et en tout cas, de Demy à Kazan, mais de Pollack à Demy et à Kazan, il y en a beaucoup moins.
Et ça, c'est le roman. C'est Clic-Clac qui le dit et qui, du coup, se change de ce lit tout simple qu'on replie à une sorte de king-size bed, de dépliant gigantesque, livresque, d'un jeu de poupées russes aussi. Vous revisitez l'histoire du cinéma, ou plutôt l'histoire des citations au cinéma à travers ces trois films dont les acteurs vont peu à peu prendre la parole, essayer d'agir sur cette scène avant de s'y plier comme un clic-clac. Claire, elle est très contente de son titre, hein, votre héroïne. Elle le dit à plusieurs reprises. Elle en parle de clic-clac. Je vous cite. Clic-clac, ce sera comme du vent dans des voiles, des linges qui claquent, dit-elle, des mouvements de caméra très rapides, de l'air qui siffle. On n'aura jamais vu ça comme ça. Le spectateur s'y coincera les doigts. Vous en êtes fière, vous, de ce titre, Nathalie Azoulay ?
Oui, je l'aime bien parce qu'il est humoristique, il est un peu prosaïque et il est mystérieux parce qu'en fait, dedans, il y a plusieurs références et plusieurs sens. Mais c'est vrai que cette cinéaste, qui est une cinéaste élitiste, qui travaille pour un public, je dirais, exigeant et qui représente le cinéma d'auteur, propose un titre qui ressemblerait plutôt à un film avec Louis de Funès, c'est ce qu'elle dit, et Jacqueline Maillan, Pouic Pouic. Et donc, elle déjoue un peu les attentes, elle se moque un peu de son public, et cette attitude-là m'amusait.
Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation avec des livres qui déjouent aussi les attentes de vos lecteurs, mais qui atteignent leur cible vraiment brillamment. On est frappé d'ailleurs quand on lit vos deux livres, de la façon dont ils se tiennent au plus près des œuvres des autres, qu'il s'agisse d'écrivains ou de penseurs, chez vous Tanguy Viel, ou de réalisateurs de cinéma, chez vous Nathalie Azoulay. La référence, elle était déjà présente dans votre livre Titus n'aimait pas Bérénice, paru en 2015, qui était un roman articulé autour de la figure de Racine, Jean Racine et sa tragédie Bérénice, dont vous donniez une réplique contemporaine tout en retraçant l'histoire de la langue racinienne. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'adosser votre histoire à d'autres histoires écrites par d'autres ?
Mais je crois que c'est mon processus de pensée naturelle, que de convoquer sans arrêt les choses que j'ai lues, que j'ai aimées et que j'ai approfondies. Et donc c'est mon psychisme qui est totalement pétri et nourri de références. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut faire attention, comme Tanguy Viel le disait tout à l'heure, parce qu'on peut aussi basculer dans un processus trop réflexif, en fait, trop adossé à des références que les autres n'ont peut-être pas.
Dans la perversité, vous y parlez.
Oui, il y a quelque chose d'un peu dangereux.
Vous êtes aussi menacé par le démon de la perversité littéraire.
Mais
de la
citation.
Mais
je crois que c'est pas de la perversité, il y a peut-être une forme de complaisance à être trop réflexif. Et en même temps, on essaye de doser, on essaye de faire attention. Et en l'occurrence, pour Clic-Clac, j'ai choisi des films qui sont très connus du grand public. Donc je pensais et je misais sur une connaissance préalable.
Mais il fallait qu'il y ait cette connivence référentiel entre
alors,
les
soit on est très très habile et on arrive à présenter la référence en l'offrant au public et en lui mâchant le travail et en lui prenant la main et en mettant tout à sa disposition, ça c'est dans le meilleur des cas. Parfois il y a de l'opacité qui demeure et à ce moment-là c'est vrai qu'on va plutôt vers... Enfin là je suis allée vers des films sciemment très connus de tout le monde.
Parce que vous Tanguy Viel, justement, vous êtes dans l'offrande. On parlait de... Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs écrivain, tout ça, ce diariste qui minute par minute écrit sa vie? Bon, il y a Montaigne, évidemment, ça on connaît. Mais par exemple, vous citez des textes de Valéry très très beaux, qui sont pas d'ailleurs le cimetière marin, qui ont lié à la partie liée à la mer. Mais il y a un côté offrande faite au lecteur dans ce livre aussi.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est délicat, en effet, avec la citation, alors c'est plus facile, je pense, dans l'essai que dans le roman, parce que l'essai peut assumer directement la présentation d'un savoir, sans avoir la cuistrerie que dans le roman ça peut avoir que de marquer des références ou des second degrés ou des connivences qui sont imposées au lecteur, quoi. Bon, après quoi, j'ai l'impression, moi, que dans ce livre-là, ce qui doit faire passer les références, si je puis dire, et les citations, c'est le fait de les exposer comme le processus même de mon salut, en tant que quelqu'un qui essaye de penser. C'est-à-dire qu'au fond, de dire en permanence, ben voilà, j'en suis là, alors je convoque un tel, Montaigne, Valéry, etc. J'essaie de comprendre comment ils ont fait, mais je sais très bien en prenant ces gens-là que je prends quand même des gens qui sont assez connus, donc c'est pas à moi non plus de faire le travail, je dirais, d'un universitaire, par exemple, qui lui aurait soit la prétention d'avoir quelque chose à explorer de nouveau sur l'auteur, soit à faire découvrir des nouvelles personnes. Moi, c'est pas tant ça, parce qu'au fond, je sais très bien que même les quelques personnalités un peu exotiques que j'ai présentées dans le livre, au fond, on peut trouver sans doute des livres plus complets sur eux que ce que je fais moi. Donc j'espère que c'est un tissage, ou en tout cas un dosage qui n'est pas en effet facile, qui consiste à se dire que pour le lecteur, il faut qu'il ait un plaisir, en effet, soit à redécouvrir, soit à découvrir des figures, mais qu'en même temps, il sent bien que c'est articulé avec une aventure qui est un peu plus importante que simplement le seul jeu d'une érudition éventuelle.
Quand Nathalie Azoulay disait « ça fait partie de mon processus mental ou psychique, mais littéraire, enfin d'écriture aussi d'ailleurs. »
Mais de vie, simplement.
Et de vie.
Je crois que je suis tout le temps traversée par des références et des reconnaissances ou des intuitions de reconnaissance.
Ouais. Et dans vos livres, justement, on sent ce processus s'applique aussi à votre façon d'écrire. On disait « Titus n'aimait pas Bérénice » ou encore « on était... » Je parlais de poupée russe tout à l'heure, il y a ce côté-là en fait. Tout s'emboîte et fait découvrir sans cesse de nouvelles poupées. Tanguy Viel, dans vos romans, on sent la référence, mais en tout cas elle est forcément cryptée, c'est ce que vous disiez. En tout cas, vous avez ce même processus psychique aussi d'ouvrir sans cesse des portes, même dans la fiction.
C'est-à-dire qu'en effet, ce qui advient en premier presque quand se présente à une embryon de fiction, ce sont des archétypes ou des scènes, souvent en effet issues du cinéma, quelquefois de la littérature, et qui viennent pour moi préfigurer presque mentalement, m'aider en fait à usiner la chose avant que moi-même, si je peux rajouter quelque chose dans cette affaire, ce sera de rajouter ma phrase, c'est-à-dire de les retraduire dans une langue qui, si possible, permet d'y déposer la petite chose personnelle qu'on appelle le style. Mais tout ce qui est derrière, c'est la plupart du temps, en effet, c'est un grand capital culturel, en fait, qui nous appartient à tous. Et d'ailleurs, dont le fait qu'il soit collectif aide aussi à faire passer les objets les uns les autres. C'est plus facile de travailler avec des mythologies communes.
Ouais, alors, plus facile, ou aussi empoisonnant, peut-être, vous pensez l'un et l'autre, Nathalie Azoulay, qu'on est... c'est vrai qu'on le dit souvent, enfin en lisant, en écrivant, c'était le titre de Gracq que je citais à l'orée de ce livre, on écrit parce qu'on lit d'abord, forcément, je veux dire, c'est aussi lié que ça, l'écrivain est d'abord un lecteur, il ne serait pas écrivain s'il n'avait pas été lecteur.
Oui, en l'occurrence, pour moi, c'est vrai que si je ne lis pas, je n'écris pas. Et si je ne vois pas de film, je n'écris pas non plus. Mais ce que j'ai essayé de faire avec Clic-Clac, c'est justement d'utiliser la référence d'une manière un peu différente, en la rendant vivante et en ouvrant à l'intérieur un espace narratif. Alors, on y reviendra peut-être, mais c'est l'espace narratif d'un making-of, c'est-à-dire du film qui est en train de se faire.
Et vous brouillez d'ailleurs les limites.
Oui, c'est-à-dire on connaît le résultat final, tout le monde a vu le film, et moi, je réexamine la possibilité d'un autre film à l'occasion de scènes que j'imagine entre les acteurs et les metteurs en scène.
C'est donner envie de les revoir, d'ailleurs, parce qu'on a envie, c'est vrai, de revoir Splendor in the Grass de Kazan, vous lisant. Il s'agit, pour l'un et l'autre... de faire mentir Mallarmé, la fameuse page blanche, en disant la page, en fait, pour un écrivain, elle est jamais vierge.
Ah non, ça c'est sûr, elle est jamais vierge, parce que je vois même pas comment...
Ah, c'est sûr, lui disait le contraire. Et cette angoisse de la page blanche.
Oui, ça n'empêche pas, après, qu'elle soit blanche ou noire, enfin, ça change pas grand-chose au fait qu'à un moment, il va falloir contraster avec elle pour pouvoir s'inscrire dessus, quoi. Donc, Mallarmé, la voix blanche, c'est peut-être pas...
Vous la voyez noire, ça veut dire que l'écriture serait une... Une soustraction, un nettoyage de ce trop-plein, en fait, d'encre déjà sur la page.
Oui, il y a une partie comme ça, oui, sans doute. Mais après, il faudrait réussir à faire un peu de lumière dans cette pénombre-là, qui est un jeu, justement, d'ombre et de. Qui n'est pas non plus la page noire-noire. C'est plutôt une caverne remplie d'imaginaires déjà constitués, de textes, de. Enfin, pour ma part, j'ai l'impression que finalement, si j'arrivais juste à raconter mon propre passage à travers. Ce territoire-là, ce territoire culturel, imaginaire, etc., ça me contenterait parfaitement.
Je reviens sur l'image que j'ai pu citer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un écrivain serait, alors on disait une nuée de chauves-souris, on va en prendre une déjà, mais cette chauve-souris qui finalement, avec son sonar, a besoin des arbres qui sont là, qui sont constitués, et qui sont la métaphore des autres livres, en fait, dans cette caverne dont vous parliez, pour justement pouvoir se repérer. Elle a besoin de ça, et elle a besoin de ce sonar, en effet, pour pas se cogner sur ces œuvres-là. Cette image vous convient-elle, Nathalie Azoulay ? Elle est nocturne déjà.
Elle est nocturne et moi, elle m'effraie parce que j'ai terriblement peur des rongeurs. Mais moi, je dirais qu'en fait, la littérature n'échappe pas à la fabrication humaine. Elle est une fabrication humaine comme les autres. Et donc, chaque écrivain, quand il arrive en littérature, a envie de contribuer. Donc, en fait, c'est une contribution et une contribution s'adosse forcément à la contribution des autres. Donc c'est absolument impossible de faire sans, il n'y a pas d'économie possible de ce qui précède. Et comme disait Tanguy Viel, si on arrive à proposer un sillon à l'intérieur de cette forêt qui nous préexiste, alors c'est déjà bien.
Quand vous dites contribution, il y a au fond l'idée d'une œuvre commune en fait, qui réunirait tous les écrivains.
On commune, contribue à quelque chose. Je ne sais pas parce qu'elle est successive et que ça se déroule dans l'histoire et dans le temps. Mais comme il y a ce vecteur du temps qui est tout à fait crucial et central... Alors on déroule un fil, on n'est pas toujours ensemble au même moment.
Mais alors on contribue à quoi alors ? Dites, c'est une œuvre de contribution. À quoi vous contribuez, Nathalie Azoulay ?
À la mise en langage de nos actions.
Ça vous va, Tanguy Viel ?
Oui, puis il y a quand même, il me semble, il y a une utopie de la communauté quand même dans la littérature. Il y a un rêve de presque de communication, en fait, paradoxalement, avec toutes les réserves qu'on pourrait avoir sur ce rapport-là à l'écriture. Mais il n'empêche que... À un moment, on vise à un bien commun, me semble-t-il.
Le bien commun. On continue avec vous, Tanguy Viel. On écoute votre choix musical. Vous avez choisi My Girl de Nirvana.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
My girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night? Sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. Girl, my girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. The husband was a hard-working man, just about a mile from here. His head was found in a driving wheel, but his body
Où as-tu dormi hier soir ?» lui demande-t-il. C'est Kurt Cobain. My Girl de Nirvana, c'est le choix musical de Tanguy Viel qui publie Iceberg aux éditions de Minuit. Il est avec Nathalie Azoulay qui publie Clic Clac chez POL. Pourquoi ce choix musical ? On parlait de citation. Il y a un lien entre la citation et My Girl ? Voilà la question. Est...
Non, je ne pourrais pas réussir à faire le nœud que vous cherchez à me faire faire, mais par contre, je peux essayer de vous dire pourquoi j'ai choisi une chanson de Nirvana, même si c'est une reprise en effet, mais peu importe, parce que c'est surtout pour ce grain, cette fatigue qui irrigue la voix de Kurt Cobain. Et il se trouve qu'on aurait à peu près le même âge avec Kurt Cobain et que j'ai évidemment beaucoup écouté Nirvana au début des années 90 et que, à sa manière, dans cette humeur souterraine qu'il a l'air de porter, j'ai l'impression qu'il dit quelque chose de, j'allais dire, de notre génération, les gens qui approchent des 50 ans aujourd'hui, mais c'est pas tant par rapport à ce qu'on serait aujourd'hui que dans quoi on est né à 20 ans. Et Nirvana portait, me semble-t-il, quelque chose de la fatigue, du désenchantement, de la mélancolie profonde de cette fin de siècle et de comment on allait faire après ça ou avec ça. Et j'ai toujours gardé cet arrière-fond, cette couleur un peu sombre, dans l'idée que, comme si tous les jours, quand je retravaillais, que j'en prenais un nouveau texte, je redémarre depuis cet endroit-là, qui est l'endroit de mes 20 ans, en fait, qui est l'endroit des années 90. Et j'ai besoin de ce lieu-là pour pouvoir aussi me débarrasser de tout, et me dire, après tout, pourquoi pas.
Voilà. Et la musique aide à se mettre à cette mise en condition de retour à l'adolescence.
Malheureusement pas. La musique sert de, par endroits de petits refuges, voire de madeleine. Enfin, elle a ses effets assez agréables, mais non, pas pour écrire, malheureusement.
Alors Tanguy Viel, vous êtes l'auteur de L'absolue perfection du crime, de l'article 353 du code pénal. Vous publiez cette fois un livre d'une forme nouvelle, puisque c'est un essai, c'est votre premier essai, Iceberg, donc aux éditions de Minuit, qui se présente comme une suite de courts chapitres, écrits sur plusieurs années, dans lesquels un écrivain, vous, hein, questionne ce qu'il doit aux autres. On vous voit passer d'un chapitre, presque tout est dit, hein, le démon de la citation, à une réflexion sur Abby Warburg, d'ailleurs, qui était limite aussi dans la folie. Hein, à un moment, ça a été un patient célèbre. D'une réflexion sur les aubes de Paul Valéry, regardant notamment un bateau brûlé, avec une sorte de métaphore là sur un livre qui pourrait être un livre, qui pourrait être un objet non seulement échoué, mais calciné. Vous citez énormément justement de ces auteurs. Comme si justement la citation vous stimulait, vous inquiétait, vous questionnait sur votre métier, votre vocation, vos phrases. Et c'est une sorte de promenade que ce livre, dans votre psyché d'écrivain, à la fois on sent que la citation agit comme un déclencheur à fiction, à envie d'écrire, ce que vous disiez aussi Nathalie Azoulay, et puis aussi comme quelque chose qui donnerait l'impulsion d'un doute aussi, d'un doute abyssal. D'ailleurs, le mot abysse est très présent. Vous dites, je citais tout à l'heure cette phrase, j'aimerais bien qu'on y revienne et je vais la reciter pour celles et ceux qui ne nous rejoindraient que maintenant. Vous dites que le recopiage de la parole des autres, quand on le fait, on comprend le code secret de son existence et on comprend qu'il est non seulement disséminé dans 1000 lectures inattendues, mais que sa composition même ne se dévoile qu'en sautillant et circulant sans but. Pensée intercalaire, écrivez-vous, qui trouve leur épaisseur à travers les pages lues ou simplement feuilletées, comme une nuit de chauve-souris se dirige aux ultrasons entre les arbres sans jamais s'y cogner, profitant de l'écho trouvé en eux pour se mouvoir infiniment dans la nuit. Quel est ce code secret d'une existence d'écrivain qui serait, c'est presque borgésien, oui, qui serait dans les livres des autres ?
C'est très, très, oui, au fond, c'est très borgésien. C'est un auteur que je cite pas dans ce, ou presque pas dans ce livre, une fois, je
crois. En fait, il est tout le temps là, sans que vous le citiez.
Mais bien sûr, il est beaucoup là, oui. Alors, au fond, c'est une espèce d'inquiétude de chercher un point central qui rassemblerait tout, qui serait aussi le point de sa propre existence, le point de la vie même, en fait, que, duquel le langage nous a sans doute à jamais séparés, mais qu'en même temps, on passe son temps à vouloir retrouver. Vous voyez, comme quoi, même Mallarmé, j'arrive à le replacer.
Exactement, bravo.
Mais il se trouve que dans certaines phrases, par moments, qui mettent le doigt sur ce drame-là, il y a une chose étrange qui se produit, qui fait que, en nommant le drame, il y a une sorte de résolution, de réparation qui se fait. Et j'ai l'impression d'avoir collecté beaucoup de phrases qui passent leur temps, qui sont des phrases de déploration, en fait, des phrases de plainte, des phrases d'écrivains qui passent leur temps à essayer de dire à quel point ils frôlent, en effet, la folie, l'impossibilité, etc.
C'est ça le code secret de l'existence. C'est-à-dire... J'aime beaucoup l'expression.
Parce qu'au fond, pour moi, je pense... Peut-être que d'un point de vue purement intime, je ressens ça comme un vide, une existence. Personnellement, je crois pas que l'existence soit une substance ou soit. Donc, toute phrase qui arrive à border ce vide en le nommant crée chez moi un sentiment de refuge, d'abri, d'endroit où je peux habiter dans mon propre vide.
Oui. Alors, on est parti du côté d'Heidegger, peut-être, voilà, qui pourrait aussi être là. Vous comprenez cette idée, Nathalie Azoulay, du code secret de l'existence de l'écrivain, qui serait en fait à décoder d'ailleurs par l'écrivain lui-même dans les lectures qu'il fait.
Je ne m'étais jamais formulé les choses comme ça, mais c'est un peu trop savant pour moi. Je crois que je ne vais pas jusque là. Et en plus, mon code change en fonction des périodes de ma vie, et donc mes corpus changent. Et je me promène de manière assez libre et peut-être même un peu buissonnière à l'intérieur de tout ça. Donc le code secret, pour moi, c'est super sérieux, c'est un peu tragique même.
Et il l'a dit, hein, d'ailleurs, ouais, hein, il parle de vide. Ouais.
Et donc ça induit une quête qui n'est pas exactement la mienne.
Alors, si je peux me permettre, là où Nathalie Azoulay a absolument raison, c'est que le but du jeu, c'est de créer des variations sur cette affaire-là, et pas de tenir sans cesse cette espèce de centre fantasmé. Et c'est justement ça le danger. Donc c'est vrai que c'est ce que je cherche un peu dans ce livre et dans la citation en général. Mais en réalité, c'est ça ce qu'il faut faire, c'est ce que présente Nathalie Azoulay, c'est-à-dire il faut trouver les endroits de domestication du monstre à travers des variations.
Vous parliez de danger, le danger est très très présent dans votre livre Tanguy Viel, parce que je parlais d'iceberg tout à l'heure avec cette métaphore, cette idée de bloc qui dérive de manière singulière ou solitaire sur une mer glacée. Il y a une autre métaphore dont vous servez dans ce livre, vous l'empruntez à Antoine Compagnon, qui lui-même l'emprunte au monde des toreros. J'aimerais qu'on vous entende lire un extrait d'iceberg.
Dans son livre entièrement consacré à ce problème, Antoine Compagnon propose que l'énergie impulsée par la citation ne dépende même pas tant de son contenu que du fait même de citer. Il existe une puissance de la citation indépendante du sens, écrit-il, celle qui met en branle. Dans le vocabulaire de la corrida, continue Compagnon, on dit que le torero cite le taureau. Il provoque sa charge à distance. Il le promeut en agitant un leurre devant ses yeux. C'est certainement cet emploi qui demeure le plus fidèle au sens premier et essentiel de la citation. Elle est un leurre et une force motrice. Son sens est dans l'accident ou dans le choc. Depuis tout ce temps que je me débats avec le démon de la citation, avec le surmoi de la citation, avec la compulsion de la citation, avec le dégoût, la névrose, l'amour de la citation, je ne sais pas si j'en ai trouvé le juste usage, mais... Il m'est arrivé de penser qu'au lieu de continuer à écrire des livres, je pourrais faire œuvre de scribe, moine copiste devenu assez idiot pour ne même plus penser au salut de son âme, mais vivant sa tâche de copieur dans l'absurdité mystique de chaque instant. Quelque chose comme un « en lisant, en écrivant » que j'aurais pris au pied de la lettre, copiant infiniment toutes les phrases qui me plaisent en un florilège infini, avec ce seul sentiment de les glisser comme des images dans un album que je remplirais patiemment, quotidiennement, m'occupant à le concevoir, autant peut-être que si je faisais une maquette, un puzzle, ou quelque autre artisanat qui confond si bien ses moyens et ses fins.
Merci Tanguy Viel, c'est un extrait d'Iceberg. Donc on est passé du danger de la domestication, en tout cas de la danse avec le monstre du torero, jusqu'à l'activité du moine copiste qui au fond n'écrit que les phrases des autres. Vous pourriez vous contenter de cela parce que où est le monstre? On est passé, on voit comment votre livre d'ailleurs fonctionne. C'est-à-dire qu'on est dans une coloration extrêmement pleine de dangers, la proximité du sang, à l'isolement, le non-duel de l'activité solitaire du moine. Il n'y a plus de monstre. Vous êtes dans quel registre, vous?
Le problème, c'est que le livre essaye d'exposer une dynamique, une tension qui est la mienne entre des endroits où, au fond, comme tout le monde, je veux aller au combat, si je puis dire, et fabriquer des livres. Et d'un autre, par moments, c'est tellement épuisant et tellement difficile que il y a un rêve caché qui consisterait à retrouver une sorte de paix un peu mystique. Alors, l'activité de copiste, au fond, répondrait assez bien parce que elle pourrait combler la pulsion d'écrire, en fait, sans plus avoir le souci de la création.
Est-ce que ce livre est là, je disais, c'est votre premier essai, vous le dites, hein, d'ailleurs vous écrivez qu'il arrive qu'on se sente à l'étroit dans la fiction, engoncé dans un costume qu'il faut sans cesse réajuster, dans le souci de cet objet si minutieux, si mécanisé, et qui rend par là même caduque les 9/10 de la production de l'esprit, à force d'obliger la pensée à se couler dans l'espace contraint d'un drame. Ce livre-là, en quoi il était important de le faire maintenant? Il y a l'aveu d'une paix mystique, un changement de direction dans l'œuvre de Tanguy Vielle?
En fait, c'est-à-dire que ça fait bien longtemps que je me bats avec mes démons, c'est-à-dire qu'il y a ce fleuve continu d'une pensée qui insiste et qui ne sait pas trop où se loger. Et puis il y a heureusement pour moi des moments où tout ça vient se scénographier dans un lieu romanesque, et c'est des moments dont j'ai vraiment besoin, parce que c'est des moments où les choses se dessinent vraiment, je peux pas rester là encore dans ce grand bain un peu flou. Et puis en même temps je vois bien une autre pente, je sais pas si c'est la mienne, mais une pente de la littérature qui est très belle, qui passe par des œuvres qui sont pas des œuvres justement qui se contraignent dans l'espace du drame, mais qui seraient celles de Montaigne, ou de même celles de Proust à sa manière, c'est-à-dire une capacité à se tenir dans si près de la pensée que tout d'un coup on a l'impression que on peut écrire au fil de la plume et que tout ce qu'on pense va se transformer en or immédiatement. Bon,
Mais en quoi c'était important pour vous de partir dans cette direction, de quitter justement le territoire du roman pour vous lancer, alors dans une autre enquête d'ailleurs, parce que c'est vrai que vos romans souvent sont conçus comme des enquêtes, là c'est une enquête réflexive, quoi, une enquête sur le métier d'écrire.
Oui, mais parce que les deux coexistent depuis longtemps chez moi. J'ai cette mauvaise pente un peu spéculative qui fait que j'arrive pas à être toujours dans la fabrication pure. Il faut régulièrement que, comme disait je sais plus qui, que je descende de mon vélo pour me regarder pédaler. Et donc, à un moment, c'est l'accumulation de cette matière-là, de ce qui pourrait tenir lieu de journal intellectuel, de journal intime intellectuel, que j'ai eu besoin de formaliser un peu dans ces essais.
Alors, il y a un très beau passage sur Valéry, hein, donc Paul Valéry, né à Sète, qui contemple les bateaux du port de Sète, donc une métaphore qui vient bientôt habiter votre propre propos, Tanguy Vielle, puisque pour vous, le livre, je vous cite, est « ce magnifique cadavre de bateau couché sur une plage et que des enfants visitent et s'approprient chaque été, bien plus que les navires qu'on voit passer au large. Au fond, ces bateaux-là n'ont peut-être jamais vraiment navigué, mais c'est cela précisément qui nous touche, à cet endroit où l'absence d'œuvre est à soi seule une aventure. Si l'on ne peut faire de l'échec un horizon, encore moins un bouclier, on peut au moins s'y construire des abris provisoires qui nous sont quelquefois plus habitables que de virils paquebots. » Alors je voudrais vous interroger là-dessus parce que vous revenez souvent sur la virilité que vous opposez à la littérature. C'est votre problème. Notamment sur l'adolescence en fait, ou les questions de, pas encore l'écrivain, l'adolescent qui va devenir écrivain et qui se sent pas viril par rapport aux autres. Alors pourquoi cette conception de la non-virilité de l'écriture, de la littérature ?
Je pense pour des raisons très biographiques, c'est qu'en effet, je me suis construit sur la littérature comme un lieu qui allait pouvoir m'exonérer de cette espèce de lutte qui, pour moi, et sans doute, j'étais pas à la hauteur de cette lutte, donc j'ai cherché un endroit où je pouvais tenir, et cet endroit-là, je l'ai trouvé dans une certaine littérature. Il y a un écrivain que je cite pas dans ce livre, mais qui pourtant est là tout le temps, c'est Kafka. Voilà. Et quand Kafka écrit cette phrase que tout le monde connaît, c'est-à-dire écrire, c'est bondir hors du rang des meurtriers, en fait, il veut simplement dire ça, je crois. C'est-à-dire, il veut dire qu'à un moment, c'est une façon de, peut-être, de refuser un peu le combat, en tout cas le combat productiviste, si on peut dire, de l'existence où il faudrait sans cesse faire ses preuves, etc. Bon, après quoi, Kafka dit aussi, dans ton combat contre le monde, seconde le monde. Donc tout ça ne nous exempte jamais totalement.
Et on peut dire que l'œuvre de Kafka était une œuvre de combat.
Oui, c'est tout le paradoxe, mais c'est une œuvre de combat par le retrait.
Vos deux livres, Nathalie Azoulay et Tanguy Vielle, ont deux formes paradoxales. Celle de la mise en abîme pour vous, Nathalie Azoulay, on va y venir dans un instant. Et celle de la spirale, je dirais, pour vous, Tanguy Vielle, dans la mesure où vous ne cessez de descendre en vous, alors bien accompagné hein, par tous ces auteurs, pour trouver une réponse que vous ne trouvez pas à ce besoin d'écrire, tout à votre recherche d'ailleurs, de ce que vous appelez une poétique de l'instable et de l'inquiet. Tout livre court-il pour vous après une forme, et une forme souvent impossible à trouver?
Oui, à ceci près que faire un livre, c'est quand même trouver sa forme. C'est-à-dire que pour moi, il y a dans le... Longtemps, j'aurais pu dire, oui, finalement, on n'est jamais satisfait de son livre, on est toujours dans l'insatisfaction, l'inachèvement, etc. Maintenant, j'aurais tendance à dire que quand on finit un livre, on a réussi quelque chose de tellement miraculeux que, au fond, je suis pas sûr que cette forme soit si impossible à trouver. Elle est provisoire, certes, elle nous empêchera pas de nous remettre sur le métier dans les semaines qui suivent, mais au moment où on finit quelque chose, on a quand même un sentiment d'aboutissement total, et donc, je sais pas, qui est dedans une inquiétude, mais qu'elle soit capturée par la forme quand même.
Et la forme de l'iceberg alors, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que l'iceberg est précisément un objet qui change de forme en fonction du soleil, de la fonte justement de sa propre matière, et qui en plus, ça, une partie de sa forme est invisible puisqu'elle est sous l'eau.
Oui, et puis surtout, ce qui me plaisait aussi beaucoup dans l'iceberg, c'était qu'elle est, de la même matière que celle sur laquelle elle dérive. Mmh. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là que je me disais qu'en appelant ça iceberg, il y avait aussi là la possibilité qu'au fond, peut-être dans 10 ans, j'y revienne, que je les reformule, les retravaille, que j'en mette d'autres évidemment. Et il y a un effet d'inachèvement en effet, beaucoup plus que quand j'écris un roman. Il me semble que là, on fait apparaître quelque chose qui au fond pourrait être autrement.
D'ailleurs, d'inachèvement et d'impossibilité, vous terminez quand même, c'est presque Blanchot qui gagne à la fin de votre livre. Vous dénoncez ceux qui demandent à la littérature une positivité nouvelle, une vigueur qui pourrait bien se héroïser trop vite en de nouvelles croisades sociétales. Presque la littérature d'engagement, en fait, la prise de parole. Et au fond, vous opposez à ça une demande et une fatigue que nous sommes de vivre si loin du rivage. Et c'est Blanchot qui gagne.
Parce que oui, c'est ma généalogie personnelle et psychologique, sans doute, principalement. Parce que mais le fait est que ce qui me fait toujours peur dans la littérature, quand elle vient se réactiver comme lieu possible dans le monde, avec le monde et vers le monde, c'est le fait que ça l'oblige à parler assez fort, comme un Victor Hugo en son temps, si vous voulez. Et bon, moi, ce qui me fait toujours peur avec ces voix-là, c'est qu'elles sont un peu écrasantes et qu'elles ont tendance à laisser sur le côté les êtres... Paradoxalement, ce sont souvent des œuvres qui se pensent comme des grandes émancipations de l'humanité, voire des héroïsmes un peu socialistes, si on dit. Et dans un autre sens, elles ont tendance à négliger un peu la fragilité, pourtant qu'elles devraient soutenir, paradoxalement.
Vous êtes d'accord avec ça, Nathalie Azoulay?
Oui, je suis parfaitement d'accord. Et je trouve très beau cette image de l'iceberg, parce qu'elle est à la fois très virile, très puissante, mais aussi très fragile.
Vous le consolez, là, c'est
non,
bien.
Non, mais parce que ça croise ces deux catégories d'écrivains dont vous parlez, les virils et les dubitatifs, je ne sais pas comment les appeler. Et l'iceberg est une belle forme. Mais je rejoins ce que dit Tanguy Viel, parce que c'est vrai qu'on est écrasé par les sujets, en fait. Ouais. Et que la littérature actuelle a besoin de brandir ces sujets pour exister. Et c'est vrai que quand on a des sujets qui sont des sujets un peu moins dans l'actualité, alors on souffre peut-être d'un bémol qui ne devrait pas être, parce que cette fragilité dont parle Tanguy Viel est tout à fait cruciale.
Alors, de la forme de l'iceberg à la forme d'un clic-clac, voilà, nous allons vers votre livre, Nathalie Azoulay. Vous aimez aussi, vous, les délices des constructions romanesques complexes. C'est aussi la forme qui a l'air chez vous de guider un livre. Et c'est pas justement, voilà, le propos sociétal, la voix tonitruante, hugolienne. C'est d'abord la forme aussi, et les raffinements de la complexité et de l'instable.
Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a d'abord l'intuition d'un sujet qui est comme ça assez fugace et imperceptible. Mais très vite, il y a la volonté de fabriquer quelque chose. Donc, en effet, de trouver une forme, de la composer. Et c'est vrai que par rapport à l'enjeu de la composition, la non-fiction est un repos, parce que c'est vrai que c'est difficile de composer. Mais en même temps, c'est ça qui est agréable et qui fait le délice, comme vous diriez. Mais c'est vrai qu'à chaque roman, je me donne le défi d'une forme un peu différente. Ouais. Assez enchevêtré, assez tissé, assez comme ça, avec des entrelacs, plus ou moins complexes. Et dans Clic-Clac, je me suis accordé un petit repos. Alors, il reste quand même pas mal de compositions, mais par rapport au roman que j'avais fait avant, il est plus simple et il est beaucoup plus vif. Et
mais c'est il y avait un repos dans cette... aussi, comme Tanguy Viel, c'est-à-dire retourner à la chambre du
mais
moine.
Mais c'est fatigant de composer, en fait, de composer à partir de rien et d'élaborer des objets comme ça avec des doubles faces, des doubles fonds. Et donc là, il y avait une forme de repos, mais relatif, puisqu'il y avait quand même la nécessité d'enchevêtrer des références et de relier toutes ces références au vivant du roman et du présent du roman.
On écoute votre choix musical, vous avez dit qu'il était cheesy tout à l'heure. C'est un mot qui revient dans Clic-Clac. C'est quoi cheesy?
Mais j'aime bien le mot cheesy, qui est un mot anglais et dont on n'a pas un total équivalent en français, parce qu'il y a du fromage dans la bouche, il y a cette chose un peu dégoûtante, parce qu'on a l'impression qu'on en bave. Et en même temps, ça veut dire sucré. Or, le fromage n'est pas sucré, donc j'aime bien ce
alors,
paradoxe.
Ce morceau de cheesy, donc The Way We Were, donc qui est le grand, c'est d'ailleurs le titre en anglais du film qui sert de matrice à votre clic-clac, Nos plus belles années.
En français.
Avec Barbara Streisand
et Robert Redford. Donc un mélo qui est au centre de votre roman, et The Way We Were, c'est la chanson que chante Streisand dans le film.
C'est la chanson de Streisand, je crois qu'il n'y a pas plus mélodramatique que cette chanson, et plus kitsch sur le plan sentimental.
Et en même temps,
mais je l'aime beaucoup.
Et riche de potentialités romanesques, comme on va le voir. On écoute The Way We Were.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Of my mind, misty watercolor memories of the way we were, scattered pictures of the smiles we left behind. Smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line?
C'est dur de couper Barbra Streisand. The Way We Were, c'est le choix de Nathalie Azoulay qui publie Clic Clac chez POL. Elle est avec Tanguy Viel qui publie Iceberg aux éditions de Minuit. Pourquoi ce choix musical, évidemment, on comprend, est lié au film qui est central dans Clic Clac, dans The Way We Were, donc en français Nos plus belles années, film de Sidney Pollack. Comment êtes-vous parti en fait de ce film qui fait qu'on a le bonheur d'écouter cet après-midi Barbra Streisand? Quoi ce film-là?
Mais c'est un film que j'ai vu et revu depuis très longtemps et dont la fin m'a toujours beaucoup fascinée. C'est-à-dire que je suis toujours restée en arrêt devant cette fin qui est très 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 triste, puisque deux amants qui ne se sont pas vus depuis longtemps mais qui se sont follement aimés se revoient, et on ne sait pas très bien ce qu'ils revoient. Et en tout cas, l'amour ne peut pas renaître. L'amour a-t-il existé au vu de ce qui se passe entre eux à ce moment-là? On a l'impression que oui, mais on peut quand même un peu en douter. Et donc cette scène finale m'a toujours beaucoup interrogée. Je trouve qu'elle est mystérieuse. Alors après, j'ai découvert que, étant donné quelques processus de montage un peu bizarres, des étapes avaient été supprimées qui auraient peut-être permis de mieux comprendre la scène. Mais peu
est-ce
importe.
Que c'est pas mieux quand on ne comprend pas, justement?
Alors c'est mieux parce
film,
qu'on y revient et que ça résiste. Mais à l'intérieur de cette scène, j'ai peu à peu découvert qu'il y en avait d'autres. Et c'est ça, en fait, qui m'a encore plus fascinée, c'est que c'est une manière d'entrer dans le processus créatif de ce cinéaste ou d'un autre cinéaste, ou même du mien, et de voir que, justement, à chaque fois, il y a des poupées gigognes dont on n'avait pas soupçonné l'existence, qui sont là. Et on ne sait pas si la référence était connue, si elle était inconnue, mais en tout cas, elle travaille à l'intérieur de la scène.
Alors, dans Clic Clac, on est avec Claire Gantz, donc réalisatrice de cinéma, plutôt cinéma d'auteur, justement pas trop normalement sujette au mélo. Elle ressemble d'ailleurs à Barbra Streisand, hein, elle a les mêmes cheveux, alors non pas cheesy, mais frizzy, mot que vous utilisez aussi. Claire Gantz a regardé, comme vous, Nathalie Azoulay, ce film presque chaque année, depuis ses 15 ans, avec sa mère, jusqu'à la mort de celle-ci. Je rappelle, Nathalie Azoulay, puisqu'il est question de poupée gigogne que vous avez reçue le prix Médicis en 2015 pour Titus n'aimait pas Bérénice, qui était un roman où, à l'intérieur de ce roman, on arrivait sur une tragédie, puisqu'il s'agissait de Bérénice de Racine, tragédie elle-même inspirée des grands textes grecs. Donc on était aussi dans ce processus créatif. Alors là, Claire Gantz est sur un plateau de cinéma avec ses deux acteurs, donc un homme et une femme, et elle leur demande de jouer cette grande scène de rupture, cette sega qui veut dire scène d'extinction du grand amour. Voilà, c'est l'acronyme qu'elle a choisi. Sauf que le problème, c'est que cette scène a déjà été tournée avant elle par Sydney Pollack dans Nos plus belles années, donc dans ce mélo. Pour ces acteurs, c'est absolument terrible d'être confronté à ce film qu'ils trouvent absolument nul. D'autant qu'ils tournent avec cette réalisatrice parce qu'elle est plutôt normalement haut de gamme. Donc ils ont du mal à tourner la scène. Et en fait, Claire Gantz tâtonne. Et l'un des intérêts, des nombreux intérêts de ce livre Clic-Clac, c'est qu'on découvre, au fond, qu'un fil secret est tissé entre Nos plus belles années, mais La fièvre dans le sang d'Elia Kazan, avec Warren Beatty et Nathalie Wood, aussi dans une, avec une scène d'extinction du grand amour, et puis le film de Jacques Demy, Les parapluies de Cherbourg, quand Catherine Deneuve recroise son amour de jeunesse et que bah, on sent que c'est quand même fini. Bref, on le disait, plus qu'un clic-clac des poupées russes, en littérature, comme en cinéma, Nathalie Azoulay, tout est dans tout.
Tout est dans tout, et quand Claire Gantz veut filmer cette scène, en fait, elle veut filmer une contre-scène, c'est-à-dire qu'elle veut couper la tête à cet ensemble de scènes qui lui préexistent. Alors, elle parle, en effet, du film de Sydney Pollack, et elle n'est pas encore tout à fait au courant des deux autres références qui marinent à l'intérieur, mais elle veut, de toute façon, couper la tête à cette scène qui est un peu archétypale, où, donc, en effet, deux amants se retrouvent. C'est pas une scène de rupture, c'est une scène de retrouvailles.
Oui.
Ils se retrouvent.
En fait, on peut la voir comme des retrouvailles, mais comme la vraie rupture, parce que c'est généralement la fin du film et qu'ils partent de chaque...
C'est vrai.
Enfin, voilà, en se séparant.
C'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se retrouvent et qu'on se demande si l'amour est encore palpitant malgré le temps. Et en fait, on se rend compte que l'amour ne renaît pas. Mais ce qui énerve beaucoup Claire Gantz, c'est que tous les metteurs en scène avant elle, et tous des hommes, ont mis en scène des femmes transies d'amour malgré le fait que l'amour n'existe plus à ce moment-là. Et donc, elle veut tourner une scène où la femme ne sera pas transie d'amour, où elle va déplier, replier la scène, c'est pour ça que c'est un clic-clac, et où elle va tourner les talons, en fait.
Quand vous dites couper la tête, c'est-à-dire comment... Elle veut aussi que les spectateurs se prennent les doigts, d'ailleurs, et les doigts aussi tranchés dans ce clic-clac.
C'est une scène difficile, parce qu'elle est cinglante, elle est très très rapide, et on peut même la louper, en fait, ce que lui dit son actrice. Donc, elle a dans cette scène une forme de gageure, et c'est pour ça qu'elle va choper.
Alors, l'année dernière, vous avez accueilli pour Les Spectateurs, dans lequel un livre dans lequel vous évoquiez déjà le cinéma hollywoodien. C'était déjà présent, d'ailleurs, la direction d'acteurs, le cinéma aussi, dans un autre de vos textes, Une ardeur insensée, en 2009. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet autre univers de création, où les personnages, d'ailleurs, sont tout autant en quête d'auteur que dans un livre ou une pièce de théâtre, mais où ils sont de chair?
Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je travaille autour de la direction d'acteur, parce que pour moi, je crois que c'est une forme d'art poétique. C'est-à-dire que j'entre dans un espace où un créateur va demander à des personnages d'exister selon ses visions à lui. Donc en fait, c'est un peu la fabrique du roman que j'imagine à l'intérieur de la direction d'acteur, mais avec de la contestation possible, avec de la répartie, avec du désaccord, et parfois aussi avec un peu de sadisme, hein, et notamment dans Clic-Clac, je montre ce sadisme. Mais c'est vrai que pour moi, c'est une manière d'interroger la création d'un personnage.
Alors, il y a le cinéma, mais il y a la littérature à l'origine, parce que vous sous-entendez dans un geste, on parlait de Borges tout à l'heure avec Tanguy Viel, que tous ces réalisateurs de cinéma ont peut-être été inspirés, malgré eux, parce qu'on ne voit pas comment Sydney Pollack aurait lu L'éducation sentimentale, quoique, mais par Flaubert, avec cette scène que je lis, donc elle est avec ses acteurs, hein, elle ne leur laisse pas le temps d'avouer que non, et poursuit. Madame Arnoux et Frédéric, qui se sont follement aimés, se revoient par hasard après de longues années, ils reviennent sur leurs sentiments, le passé, Flaubert écrit... Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Madame Arnoux, sur le trottoir, fit signe d'avancer à un fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture disparut et ce fut tout. Donc, belle citation, hein, encore une fois. Elle répète. Et ce fut tout. Voilà, c'est une bonne idée. On pourrait mettre une voiture, un scooter, n'importe quoi, avec un moteur qui démarre et qui emporte l'un des deux, suggère Pierre, donc c'est l'acteur. Non, inutile d'ajouter de la vitesse à une disparition qui va déjà vite, très vite, le plus vite possible. Au fond, Flaubert aurait peut-être inspiré, alors Claire Gantz aussi, mais peut-être tous les autres.
Peut-être, en tout cas, c'est vrai que la citation de L'éducation sentimentale arrive bien à point pour expliquer à ses auteurs cette intention. C'est vrai que ce fut tout, c'est clic-clac en fait, c'est trois mots pour dire que quelque chose s'est déplié mais replié instantanément.
Et c'est l'une des plus belles phrases, courtes certes, mais de la littérature française, et ce fut tout. Barbara Streisand, Catherine Deneuve, Nathalie Wood et même celle qui doit jouer Marie dans le film de votre réalisatrice Claire Gantz, donc les acteurs et surtout les actrices n'en font qu'à leur tête. dans ce roman. Vous racontez comment elles luttent, ces actrices, contre les scénaristes, contre Arthur Lawrence, ce célèbre scénariste de Sidney Pollack, avec l'appui de leur partenaire parfois, ou contre lui. Elles s'invitent dans votre fiction, ces actrices. Je voudrais que vous nous lisiez un extrait de Clic-Clac, Nathalie Azoulay.
« Où étais-tu passé ?» lui demande Demi. « J'avais besoin de prendre l'air. La prochaine fois, tu préviens. Je t'ai cherché partout. »« Excuse-moi, » dit-elle. « Alors, ils s'aiment toujours, oui ou non ?» Demi écarquille les yeux. « J'ai réfléchi et je ne comprends pas, » dit-elle. « Quoi ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?»« Rien, je ne comprends rien cette scène, Jacques. Rien. » Deneuve ne comprend pas ce qu'on lui fait jouer dès le premier regard qu'ils échangent. Si c'est une surprise ou des retrouvailles montées de toutes pièces. On a un doute, alors dans le doute, mieux vaut lui faire dire bonjour, suggère-t-elle. Elle dirait bonjour, la première, sans savoir d'où viendrait ce bonjour et à qui elle l'adresserait. Elle se demanderait d'où viennent les voix, les syllabes, la force de les prononcer, de ne pas bégayer. Ou alors elle bégayerait. Elle dirait bon, sans pouvoir achever. C'est une plaisanterie, s'esclaffe Michel Legrand. Pourquoi ? Elle finirait par y arriver en rougissant. Ensuite, elle peut avoir envie de fuir pour ne pas paraître si faible devant lui ou de garder le silence et d'attendre. Et Guy dirait bonjour à son tour. De quelle tonalité serait ce bonjour ? Enjouée, légère, quotidienne, sourde, vindicative, neutre, détachée, sans le moindre pli ? Hein, Michel, comment le mettrais-tu en musique, ce bonjour d'outre-tombe ? Non, non et non, dit Demi. On ne dit pas bonjour dans ce genre d'occasion. Elle est sous le choc, elle dit autre chose, ce qui vient, le sentiment du néant, de la mort, ou juste, il fait froid. Et Guy répond, « Viens au bureau, enchaîne le grand. Il fait froid, viens au bureau. » Et c'est tout, dit Demi. Admettons, dit Deneuve, mais alors on pourrait les filmer de loin, à travers les vitres du bureau de la station-service, ne rien entendre de leur dialogue, n'apercevoir que les corps qui se déplacent, les gestes, les mains qui remuent, mais ne rien entendre, imaginer, deviner, douter. Ce serait une idée, non, Jacques, tu ne crois pas ? Demi la fusille du regard. Depuis quand les acteurs réécrivent-ils toutes les lignes du scénario, surtout des quasi-débutants comme elle ? Il ne comprend pas ce qu'elle a, soudain si rétive, alors qu'elle a été jusque-là si docile, si coopérative pour tourner le reste du film. « Tu ne comprends pas, Catherine, » répond-il. « Je veux faire la scène d'extinction du grand amour. » « La SEGA, » claironne l'assistant, décidément toujours prompt à dégainer l'acronyme depuis le jour où il a dit à Demi qu'il filmait là sa contribution à la GGA, la grande geste de l'amour. « Quoi ?» dit Deneuve.
Merci Nathalie Azoulay. Alors, d'où viennent ces citations de Deneuve, de Demi, de Michel Legrand? C'est purement fictif?
Purement, je me suis amusée avec un peu de culot, je dois dire, puisque je m'attaque quand même à des monstres. Mais ça m'amusait de revenir sur la fabrication du film et justement d'adosser toutes ces possibilités qui sont évoquées par l'actrice dans ses discussions avec le metteur en scène au résultat final qu'on connaît tous.
Donc on est dans la fausse citation là.
C'est de la fausse citation, ouais. C'est un making-of que je trouve très agréable de considérer comme un espace narratif en fait. C'est une façon pour moi d'investir le cinéma encore d'une autre manière.
Alors, on parlait de personnages et de chair tout à l'heure, sans trop en dire d'ailleurs sur l'issue de ce clic-clac. Je voudrais juste parler avec vous pour terminer, Nathalie Azoulay, ce retournement où grâce à la chair, en accueillant dans sa chair la chair d'un autre, votre réalisatrice, qui se trouve toujours sèche, éthique, elle déteste le mot, d'ailleurs on lui disait quand elle était petite, cette éthique sans H, arrive à terminer son film. En quoi c'était important de montrer qu'à un moment, un écrivain, peut-être, ou un réalisateur, en tout cas un créateur, ne crée pas sans son corps. À un moment, il faut que le corps revienne.
Oui, c'était l'enjeu, c'était de montrer comment, par le sentiment, qui n'est pas que de la sentimentalité, il y avait la présence de la chair et du corps à l'intérieur d'une œuvre, et comment cette créatrice s'était coupée de ça pendant de trop longues années, et comment ça lui revenait en pleine face finalement. C'est-à-dire que avec ce cœur trop sec que ses acteurs lui reprochaient, et avec cette cérébralité qui était devenue un peu outrée. Et donc de la remettre en contact avec le corps, avec le sexe, avec une vitalité qui vient de là.
Avec les fluides, notamment.
Avec les fluides, voilà. Ouais. Elle retrouve un chemin du sentiment qui est un chemin réconcilié, en fait, puisqu'elle était en conflit avec ça, elle était dans un rejet.
Et c'est aussi votre point de vue d'écrivain, c'est-à-dire qu'un écrivain écrit avec son corps. On parlait tout à l'heure de la cérébralité, justement, de la citation, du fait de lire. Alors bien sûr, c'est physique de lire, mais on manipule des phrases, des mots, des concepts. Il y a un moment où le physique reprend justement l'avantage, sinon il n'y a pas de livre.
En tout cas, pour moi, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'intuition est quand même entrelacée à la sensation tout le temps. Et ce que disait, par exemple, Gilles Deleuze quand il interrogeait l'existence et la survenue d'une idée, c'était à la fois une idée intellectuelle, mais aussi l'obsession qui advenait dans le corps du créateur. Et donc, moi, je suis tout le temps entre les deux. Et c'est vrai que cette clairgance, elle a un tout petit peu oublié cette part-là. Et que, avec et la mort de sa mère, qui est un chagrin qui saisit son corps, et la perte que ça engendre, et la rencontre, ou disons les retrouvailles avec la sexualité que lui permet son acteur, il y a un retour du fluide vital qui réinnerve la création et qui lui permet de reprendre son film.
Et est-ce que c'est pas ça pour vous aussi, Tanguy Viel? Parce qu'on peut lire Iceberg, certes, comme une pause, c'est-à-dire un moment, voilà, on laisse dériver justement ces icebergs, façon de, voilà, petits chapitres dont la forme évolue sans cesse. On peut aussi le voir comme les retrouvailles, finalement loin de la cellule monastique et du moine copiste dont on parlait tout à l'heure, les retrouvailles avec Montaigne qui est beaucoup cité et qui disait écrire et penser d'ailleurs à saut et gambade, c'est-à-dire en termes extrêmement physiques, sachant que l'aspect à la Renaissance, d'ailleurs, l'aspect, tout le côté physique, était indissociable de l'activité intellectuelle. Est-ce que c'est pas les retrouvailles aussi, finalement, avec la dimension organique et fluidique de la littérature?
En tout cas, ce petit recueil d'essais a tendance à être plutôt du côté de la déploration, de la difficulté de ces retrouvailles, et Montaigne serait peut-être un des rares à avoir réussi à être à la fois dans une sorte de grand fluide un peu abstrait et en même temps d'avoir un corps. Mais sinon, là où je partage complètement ce que vient de dire Nathalie Azoulay, c'est le fait que la réponse pour créer, c'est l'incarnation, dans tous les sens du terme. C'est certes par le langage, mais ce langage, il est innervé par de l'émotion, du corps, et c'est ce qui pourrait manquer justement à la pensée trop pure.
Mais on sent ce plaisir, justement, l'influx, la citation chez vous, Tanguy Viel, comme la citation filmique chez vous, Nathalie Azoulay, finalement, nerveusement, presque, déclenche l'activité créative. On sent le plaisir que vous trouvez, on parlait de ce mot photique, que vous utilisez aussi, la prolifération. On sent que ça part aussi d'un influx nerveux extrêmement physique par définition. C'est comme ça, le corps de l'écrivain n'y échappe pas.
Oui, une des premières réponses, c'est certain, à l'abstraction, c'est quand même le verbe, paradoxalement. Même si le verbe, c'est pas la chair, mais le verbe, c'est quand même de la chair, quoi. Donc, c'est quand on arrive déjà à poser la moindre phrase. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, l'artifice, le feu d'artifice même rhétorique que peut quelquefois produire le langage, c'est quand même une première victoire sur l'absence.
Il y a un autre livre aussi, Nathalie Azoulay, En découdre. Voilà, ça pourrait être une belle définition de la littérature aussi. Qu'est-ce que c'est En découdre? C'est du théâtre, cette fois-ci.
C'est un monologue. Ouais. C'est un monologue qui raconte la manière dont une visiteuse de musée invective un gardien de musée sur le thème de la création, du goût en esthétique et de l'ambition.
Et En découdre, ce titre.
Et En découdre, c'est la manière dont elle en découd avec lui et avec elle-même, avec la création et avec la société d'une façon plus générale encore.
Et c'est une belle définition de littérature.
Si vous voulez.
Voilà. En découdre, coudre et découdre et en découdre. Merci beaucoup Nathalie Azoulay.
Merci.
Merci Tanguy Viel.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de vos livres, Iceberg, Tanguy Viel, les éditions de Minuit, Clic-Clac de Nathalie Azoulay chez Poel. Donc il y a un livre aussi, photo-roman, aux éditions de l'IMEC.
Oui, c'est un petit opuscule qui s'appelle Boîte Noire. Oui.
Voilà,
oui.
Boîte Noire, un photoroman.
Un autoportrait en image.
En image, et donc En découdre pour vous, le deuxième. Donc deux livres pour chacun d'entre vous. En découdre, c'est chez POL aussi, Nathalie Azoulay. Merci beaucoup. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, avec la complicité de Tsolak Paloyan, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Claude Nior à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster à l'infini sur franceculture.fr. Cette émission avec Montaigne, Barbara Streisand, Tanguy Viel et Nathalie Azoulay.